Bonjour Jean-Gilbert, bonjour aux amis. J'espère que vous allez bien. Alors nous voici rendus jeudi le 9 septembre. Et cette fois-ci, je n'ai pas fait d'erreur. Nous sommes bien le jeudi 9 septembre. Hier, je me suis mélangé les pinceaux. À un moment donné, on était en août, après ça, on était en septembre, on était mardi, on était mercredi, on était ci, on était ça. Aujourd'hui, on est bien le jeudi 9 septembre 2021. Donc, j'espère que ça ne mettra personne dans la confusion. Bonjour Lalande, bonjour Landry, et bien le bonjour aux grandes filles aussi. J'ai pas vérifié, j'ai un petit truc à vérifier ici. Bonjour Lucie, que Dieu vous bénisse. Lalande, vous commencez le week-end de bonne heure? On est juste jeudi. Bonjour Rachel. Sois bénie. Bonjour aux sœurs qui se connectent avec toi, la sœur Mona, la sœur Chantal, la sœur Ocilia. Bonjour Sylvie. Bienvenue parmi nous encore une fois, soyez bénis. Bonjour Guy. Alors, est-ce qu'aujourd'hui tu nous vois bien? Hier, il y avait un problème d'écran pour toi. Faut pas s'en faire la langue. Hier, j'ai dit un tas d'âneries. Le mardi 31 août, puis j'étais le mardi 8 septembre, et on a abouti par être le mercredi 8 septembre. Donc, faut pas se formaliser avec ça. De mon côté aussi, la semaine est longue. Thank you, Pastor David. God bless you. Still amazed about what God is doing. First time I was invited to be kind of a spokesperson for their yearly gala, and I ended up at the same table than people that I would have never, 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 ever thought of having supper with. I mean, God knows what he does, and it took all this travel, all this adventure to get there. But God is good. God is good. I just pray that when I meet the doctors, the future doctors, we can have the same reaction than 2 years ago. They were crying, both groups I met were crying, so we're just praying it's okay. It's still the same this year. And it's in English, so it's a bit harder for me, but God used us last time, so we know that he'll do something wonderful this time too. C'est bizarre, Guy. Très bizarre. Il va falloir que tu demandes à quelqu'un qui t'aide ou qui vérifie les choses. Je sais pas. Est-ce que hier soir, l'étude biblique, t'as réussi à voir ou c'était bloqué pour toi encore? Bonjour à mon père, à ma mère. Bonjour à Natacha, à Indiren. Bonjour Denise, bonjour Gérard. Bonjour Rosie, bienvenue parmi nous. C'est bizarre, bizarre, bizarre. Guy, je ne sais pas si c'est un laptop que tu as ou si c'est un ordinateur fixe que tu as, mais si c'est un laptop, tu peux toujours l'amener dimanche. Tu en parles avec Léonel pour voir s'il peut t'aider en ce sens. Sinon, ton gars d'informatique peut-être pourrait t'aider celui qui gérait ton système habituellement. Bonjour Myriam, bonjour Donald. Bonjour Denise, cette fois-ci c'est Denise de Laval. Bonjour Thérèse. À ce moment-là, Guy, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Mais peut-être que ton gars qui habite pas tellement loin de chez nous, si c'est encore lui qui s'occupe de ton appareil, peut-être qu'il saurait t'aider à régler ça. Alors, Rosie, je ne sais pas c'est quoi des quetch. Quetched. Quetched. Quetch. Quetched. Il me semble que le nom j'ai déjà entendu, mais j'ai pas souvenir de ce que c'est. Bonjour à ma mère qui vient de se connecter elle aussi. Bonjour à ma belle-mère, Shalom. Hello Sister Sylvia, God bless you, bonjour. Ouais, Nema est couchée derrière moi sur le plancher, juste à mes côtés. Ce matin, il est plus tranquille, dirons-nous. Vous avez encore 2-3 minutes avant qu'on ne débute ce matin. Ah, d'accord. Merci à ma mère pour les éclaircissements sur les quetch. Donc, si ce sont effectivement des prunes genre et prunes italiennes, j'en ai souvent mangé. En fait, même à un moment donné, on habitait à côté d'un jardin qui avait un prunier dans ce genre-là. Et dès que la saison arrivait, on se goinfrait de ces prunes qui pendaient de l'autre côté de la clôture. Bonjour Bernadette. Alors, bien heureux que de votre côté ça fonctionne bien, Denise. Bonjour Marie-André, que Dieu vous bénisse. Salutations à notre ami Farley. Que Dieu te bénisse, ma grande. Sois bénie. Alors on va prier pour débuter et après ça on lira le texte de ce jour. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous donnes, un temps, Seigneur, que nous savons déjà préparé de toute éternité pour nous, un temps à travers lequel tu veux nous transformer, nous changer, nous défier par rapport à aujourd'hui et à demain. Et nous mettre au pli avec ta volonté, avec ta pensée et avec tes désirs et tes plans pour nous. Donc nous te demandons, Seigneur, de nous parler. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre entendement. Nous te demandons, Père éternel, de déverser sur nous ces bénédictions auxquelles tu as pensé et que tu as préparées de toute éternité pour cette journée. Bénis ma sœur, bénis mon frère. Et qu'en toute chose, que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi, nous t'avons prié dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors encore une fois, bienvenue à ce temps de bénédiction matinale du jeudi 9 septembre 2021. Comme je disais hier, j'étais mélangé dans mes dates et tout ça. J'ai même corrigé certaines choses que j'avais écrite hier, juste ce matin, avec des dates qui n'avaient aucun sens. Donc aujourd'hui, on est effectivement le jeudi 9 septembre 2021 et on continue notre étude sur le chapitre 13 de Jean. On a vu Jésus en tant que Messie. On a vu Jésus en tant que Maître et Seigneur. On a vu différents défis auxquels nous pouvons être confrontés dans notre service, dans notre travail pour le Seigneur. On a vu aussi plusieurs raisons pour lesquelles on devrait prier pour nos pasteurs, particulièrement dans une saison comme celle qu'on traverse actuellement. Et aujourd'hui, donc, on continue dans notre étude et on va lire les 5 premiers versets du chapitre 13 de Jean. Donc Jean 13 du verset 1 au verset 5. Et après ça, on commence l'explication. Le verset qui va nous servir de base essentielle pour notre échange est le verset 3. Mais on va lire le contexte au complet du verset 1 au verset 5. Alors je lis pour vous. Jean 13, le verset 1 nous dit: avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venu de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était saint. Je répète le verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Je répète, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Verset important et verset sur lequel on peut passer rapidement. La voilà qui veut nous dire bonjour. Verset qu'on peut donc survoler rapidement. Et ce faisant, si on ne fait pas les recherches ou les explications telles qu'on va le faire ce matin, on passe à côté de certaines grandes vérités et certains grands principes. Je suis d'avis que peu importe le niveau de lecture qu'on exerce envers la parole de Dieu, celle-ci nous parle. Qu'on ait les capacités et les outils pour aller chercher des choses en plus grande profondeur, ou qu'on ait les habiletés, et ça arrive à tous, même moi à l'occasion, je vais lire tout simplement, survoler un texte. Je crois que peu importe quel est le niveau de lecture, la parole de Dieu nous parle. Elle est en ce sens merveilleuse parce qu'elle est abordable et elle est profitable, quel que soit son lecteur. Que ce soit un érudit de la parole de Dieu, que ce soit quelqu'un qui maîtrise le grec, l'hébreu, et puis toutes les déclinaisons des différentes versions, ou que ce soit quelqu'un qui, plus simple dans son approche, ne va lire que la version habituelle qui est la sienne, dans la langue qui est la sienne, je pense que le Seigneur parle. Donc, assurément, juste le fait de savoir que Jésus avait reçu, que le Père avait remis entre ses mains toutes choses, ça nous enseigne déjà que notre Seigneur, notre Sauveur, est tout-puissant. Lorsqu'on parle que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, toutes choses, ça veut dire toutes choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas un sujet, il n'y a pas une sphère, il n'y a pas une situation, il n'y a pas un contexte dans lequel on peut se trouver, dans lequel Jésus n'a pas autorité ou sur lequel Jésus n'a pas autorité. Et pour nous qui sommes des serviteurs du Seigneur, pour nous qui sommes des ouvriers pour le Seigneur et qui sommes des disciples de Jésus, pour nous ça doit nous réjouir, ça doit nous encourager de savoir que notre Seigneur est tout-puissant. Et tout-puissant en toute situation. Il était tout-puissant avant la croix, il était tout-puissant sur la croix, et il est tout-puissant lors de la résurrection et aujourd'hui où nous sommes plus de 2000 ans plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que si on se rend compte que Jésus était effectivement tout-puissant en tout temps, dont dans ce moment critique de sa crucifixion à la croix, ça veut donc dire qu'il a décidé de laisser de côté sa toute-puissance pour une cause qui était importante à ses yeux. Et cette cause importante à ses yeux, c'était toi et c'était moi. Comme je le disais hier, il aurait pu claquer des doigts et à un instant, des myriades d'anges seraient descendus sur terre, auraient réglé le compte de tous ceux qui voulaient le mettre à mort, de tous ses ennemis, aurait pu faire descendre le feu du ciel pour exterminer la race humaine, mais au lieu de faire cela, il a accepté le mandat qui était sien, il a accepté le travail et le sacrifice de la croix parce que à ses yeux, tu en valais la peine, j'en valais la peine, et tout homme et toute femme en valait la peine. Alors pour nous, c'est déjà merveilleux. Oui, on a étiré la chose un peu en partant de sa toute-puissance et en remarquant que sa toute-puissance était en tout temps. Mais je pense que la parole de Dieu nous a enrichis lorsqu'on fait cet exercice de s'interroger à savoir qu'est-ce que voulaient dire ces mots-là? Qu'est-ce que voulait dire le fait qu'il avait la toute-puissance? Est-ce qu'il avait la toute-puissance sur la croix? Absolument. Et s'il avait donc la toute-puissance sur la croix et qu'il ne l'a pas utilisée, pourquoi ne l'a-t-il pas utilisée? Parce qu'il t'aimait, parce qu'il m'aimait. On va revenir sur trois aspects de ce verset. Un aspect du passé, un aspect du futur et un aspect présent. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Donc, il était venu de Dieu. Jésus savait d'où il venait. Jésus connaissait son passé. Le terme « venir » de Dieu, donc Dieu c'est Théos, T-H-E-O-S, qui parle de la divinité, de la suprématie de Dieu, et en tant que chrétien et en tant que disciple de la parole de Dieu, on sait qu'il n'y en a aucun autre, qu'il est le seul et l'unique, qu'il n'y a pas d'autre Dieu, mais que notre Dieu est le seul et l'unique, les autres sont des créations de l'imaginaire de l'homme, de l'imaginaire pécheurs de l'homme, des créations ou des prétentions de la part du diable. Mais nous savons en tant que chrétiens que Dieu est seul et unique. Jésus savait d'où il venait. Le terme « venir », c'est le terme « exerchomai ». E-X-E-R-C-H-O-M-A-I. Un terme qu'on a déjà vu à quelques occasions. « Exerchomai », je répète l'épellation. E-X-E-R-C-H-O-M-A-I. Et lorsqu'on parle d'exercomaï, on parle de sortir, on parle de partir et on parle de l'origine d'une chose. Jésus savait que ce qu'il était originait de Dieu. En tant qu'homme, puisque Jésus est à la fois 100% homme et 100% Dieu, il savait d'où il venait, il savait son origine. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devrions aussi savoir notre origine. Si nous nous déclarons enfants de Dieu, ça veut donc dire que nous avons un Père. Et ce Père est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Ce qui fait que s'il est notre Père et que nous sommes ses enfants, nous appartenons donc à la famille royale. Et vous savez, comme moi, qu'une famille royale ne se comporte pas de n'importe quelle manière. Une famille royale a des règles. Une famille royale a des normes selon lesquelles ils opèrent, ils vivent, ils fonctionnent. Et nous, en tant que croyants et en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions aussi comprendre que nous avons, nous aussi, en tant que membres de cette famille royale, nous avons aussi à nous comporter d'une certaine manière, à vivre d'une certaine manière et à faire honneur au groupe auquel nous appartenons, donc au groupe qui s'appelle la famille de Dieu. Il est donc important pour toi et pour moi, réalisant cela, que nous adaptions notre comportement de tous les jours, que nous adaptions notre façon de faire de tous les jours pour être à la hauteur de l'appel, à la hauteur de la famille, à la hauteur du Père que nous représentons. Très souvent, lorsqu'on parle des écoles américaines, on se rend compte que les gens ont une fierté par rapport à l'école qu'ils fréquentent, ils ont une fierté par rapport au collège qu'ils représentent et ils ont des règles de valeur dans leur comportement, tout simplement pour faire honneur au collège duquel ils sont des représentants. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons ces mêmes règles. Jésus savait d'où il venait. Voilà pourquoi il vivait aussi comme il vivait. Il vivait étant conscient qu'il était issu du Père, qu'il était dans la lignée divine, dans la lignée royale, et nous, en tant que co-héritiers avec Christ, nous devrions prendre le même exemple que Jésus et vivre effectivement avec les règles, avec la conscience de ce que nous faisons et la conscience de ce que nous sommes supposés représenter. Lorsqu'on dit aussi Jésus savait d'où il venait, je prends juste une gorgée. Lorsqu'on parle que de l'origine, on parle aussi qu'on a été planifié, pensé, prévu. Jésus existait de toute éternité. Sa venue sur terre a été planifiée, a été pensée. Mais il ne faut pas croire que pour ton cas, ce n'est pas la même chose. En tant qu'enfant de Dieu et en tant que serviteur de Dieu, tu es dans les plans de Dieu de toute éternité. À travers les dernières journées, j'ai eu beaucoup de fardeaux pour différents pasteurs. Des fardeaux pour le contexte dans lequel nous vivons en tant que serviteurs de Dieu. Et pour plusieurs d'entre eux, les circonstances demandantes et difficiles qu'ils peuvent rencontrer actuellement. Une chose qui est certaine, c'est que si effectivement tu as été appelé de Dieu pour son service, appelé de Dieu pour le pastorat, cet appel, cette pensée, ce désir de Dieu vient de toute éternité. Il ne s'est pas créé à ta naissance. Ce désir ne s'est pas créé le jour où tu as reconnu ton état de pécheur et tu as accepté Jésus. Cet appel, cette destinée, ce mandat, ce désir de Dieu à ton égard existe depuis toujours. Depuis toujours, tu étais dans le plan de Dieu pour une heure comme celle-ci. Un peu comme la fameuse phrase de Mardoché à sa cousine Esther, qui est reine sur le royaume auprès d'Assuérus, et elle a un acte à faire pour sauver le peuple juif qui est menacé. Et Mardoché vient la voir en disant, il faut que tu ailles approcher le roi, il faut que tu ailles plaider la cause de ton peuple, parce que sinon, on va nous exterminer. Et il va rajouter, qui sait si ce n'est pour une occasion comme celle-ci que Dieu t'a amené à la royauté. En fait, c'est une question qui n'est pas une question. Si on croit effectivement que Dieu est au contrôle de nos vies, que nous ne sommes pas le fruit du hasard, que nous ne sommes pas le fruit des circonstances. Ça veut donc dire que non seulement Dieu a pensé à notre vie, mais il avait un mandat particulier. Il avait le mandat particulier pour Esther de devenir effectivement cette femme qui va sauver son peuple, cette femme qui va épargner son peuple d'une destruction assurée. Dieu voulait utiliser Esther. Au même titre où David n'est pas le fruit du hasard, au même titre où Gédéon n'est pas le fruit du hasard, au même titre où Josué, hein, qui va faire la conquête avec Israël, n'est pas le fruit du hasard, au même titre où Moïse n'est pas le fruit du hasard. En fait, aucun d'entre nous n'est le fruit du hasard. L'important pour toi et pour moi, donc, c'est de réaliser que là où je suis aujourd'hui, là où le Seigneur m'a conduit aujourd'hui, c'était un plan éternel. Je sais que plusieurs passent par des moments où, à l'occasion, ils peuvent se demander « j'ai envie de démissionner, j'ai envie de baisser les bras, j'ai envie de laisser tomber ». Mais lorsqu'on se rappelle qui nous a appelés, et lorsqu'on se rappelle que celui qui nous a appelés a désiré notre mise en fonction de toute éternité, il est beaucoup plus difficile à ce moment-là de se tourner vers lui et de lui dire « tu as fait une erreur » ou « j'ai dû me tromper » ou « on passe à autre chose ». Dieu, dans son infinie sagesse, dans son infinie grâce, dans son infini désir à ton égard, t'a créé, t'a mandaté, t'a appelé et a désiré t'utiliser. Donc, sachant que ce que nous sommes aujourd'hui et là où Dieu nous a placés aujourd'hui, c'est parce que c'est lui qui nous a conduits jusque-là. Encore faut-il avoir été soumis au plan de Dieu et ne pas avoir, en contrepartie, pris nos désirs pour des réalités. Mais si effectivement tu es à l'endroit que Dieu avait pour toi, si tu en as la conviction et si tu en as la confirmation de la part du Seigneur, il t'est difficile de retourner en arrière, sachant que ce que tu es en train d'accomplir, c'était la volonté de Dieu de toute éternité. J'ai eu ce même dilemme lorsque je suis tombé malade et lorsque je suis passé à travers tout ce que je passais. Le frère, le pasteur David, tout à l'heure parlait du post que j'ai ou de la publication que j'ai affichée hier concernant cette autre invitation que j'ai reçue à parler à un groupe d'étudiants en médecine de l'université McGill pour leur parler de la foi dans mon historique avec la maladie et de la foi dans mon historique ou dans mes rapports avec les médecins. Et ce faisant, ça me permet à moi d'exprimer ce qu'est la foi et d'exprimer ce que Jésus a fait pour moi. Cette occasion-là, il a fallu qu'elle soit préparée par Dieu. Elle était pensée, initiée, prévue, planifiée par Dieu. Même si à un moment donné, je passe par la maladie et que je me regarde et je dis, mais où est-ce qu'on s'en va? Mais qu'est-ce qui se passe? Et même si humainement parlant, j'aurais pu pouvoir préférer un autre chemin. Le jour où on m'a invité à participer à un gala pour l'hôpital général de Montréal, lorsque le médecin m'a invité, tout de suite j'ai dit oui. Parce qu'il était clair dans ma tête que c'était l'occasion de parler de Jésus. Et en sortant de l'hôpital, mon épouse et moi, on a eu exactement la même phrase lorsqu'on s'est regardé. C'était de dire, ça prenait tout ce chemin pour arriver là. Ça prenait tout ce chemin, mais ce chemin n'était pas le fruit du hasard. C'était le fruit de la pensée de Dieu. Donc, je sais d'où je viens. Je sais que je suis issu du plan de Dieu. Par la suite, ils vont nous dire que Jésus savait d'où il était venu, donc venu de Dieu, mais qu'il savait aussi où il s'en allait. S'en aller, c'est le terme hypago, donc H-Y-P-A-G-O, H-Y-P-A-G-O, qui veut dire bien plus que de s'en aller, de se diriger vers une chose. Hypago, et c'est là où, lorsqu'on a l'occasion d'utiliser des outils, lorsqu'on a l'occasion d'avoir certaines facilités ou accès à certaines facilités pour interpréter le texte grec, ça devient intéressant parce que ça nous ouvre d'autres horizons. Hypago veut dire se placer sous l'autorité de quelqu'un ou se soumettre à quelqu'un. Lorsque on prenait le texte simplement en français, on aurait dit simplement qu'il se dirige vers Dieu. Et c'est déjà une bonne chose de marcher en direction de l'éternité qu'on va passer avec Dieu. Mais marcher en direction de l'éternité que Dieu a préparée et qu'on veut passer avec Dieu, on ne marche pas de n'importe quelle manière. On marche soumis à Dieu. On marche soumis à sa volonté. On marche en accomplissant le plan de Dieu. Alors Jésus, qui savait d'où il était venu et qui savait où il s'en allait, en fait, cette expression va vouloir nous dire que Jésus s'est soumis à la volonté de Dieu. Et comprenons une chose, Jésus était à la fois 100% homme et 100% Dieu. Et quand la Bible nous dit que Jésus a été tenté en toute chose, il a été tenté en toute chose. Et tenter ne veut pas simplement dire qu'il a été, on lui a proposé une chose, mais on lui a proposé une chose qui aurait pu le faire tomber, pour laquelle Jésus a été obligé de dire « Non, je ne céderai pas. Non, je n'abandonnerai pas. Non, je ne me conformerai pas à cette tentation. Ou non, je n'abdiquerai pas devant la proposition du diable. » Être tenté, la Bible est claire, c'est lorsque la chose vient nous enticher, c'est lorsque la chose nous attire. J'ai déjà expliqué que pour moi, la drogue, ça n'a jamais été un dilemme. Même si on était venu me voir pour me proposer d'essayer un joint ou d'essayer une drogue quelconque, ce n'est pas quelque chose qui m'attirait. Je faisais des compétitions de rugby, je faisais des compétitions d'athlétisme, je courais, je me gardais en forme. L'alcool, la drogue n'était pas un problème pour moi. Alors, même si on m'en avait proposé, je ne pourrais pas dire que ça, c'était une tentation. Il y avait d'autres sujets dans ma vie qui étaient des tentations. Il y avait d'autres secteurs plus faibles de mon existence que le diable pouvait venir, avec lesquels le diable pouvait venir me faire des propositions. Et là, j'aurais été confronté à un choix. Et là, j'ai été confronté à un choix. Donc, lorsqu'on dit se soumettre, c'est donc de dire « je ne céderai pas et je vais obéir à la volonté de Dieu ». On disait que Jésus était à la fois 100% homme et 100% Dieu. Donc, à la fois dans son 100% homme, a-t-il été tenté et a-t-il refusé d'abdiquer devant la proposition du diable, mais de surcroît, toujours dans ce 100% homme, il a été confronté quant à faire ou ne pas faire la volonté de Dieu, faire ou ne pas faire le plan divin par lequel il avait été mandaté et il était utilisé ici-bas sur terre. Le dernier jour, les quelques heures avant son arrestation, ou quelques minutes avant son arrestation, dans le jardin de Gethsémané, on se rappelle tous cette scène où Jésus va lutter, va avoir de la sueur qui va couler sur son front comme des grumeaux de sang qui tombent. Et Jésus qui va faire cette prière en disant « Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, si tu pouvais éloigner de mes lèvres cette coupe », Jésus parlait de la mort qui l'attendait, de la mort qu'il allait souffrir. Et Jésus n'était pas entiché quant à subir toutes les souffrances et toutes les atrocités qu'il aurait à vivre dans les 24 prochaines heures. Mais il va compléter sa prière en disant « Mais en toute chose, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Donc Jésus a soumis sa volonté à Dieu. Jésus a hypago sa vie à Dieu. Jésus a hypago sa volonté humaine face à la volonté de Dieu. Pour nous, c'est la même chose. Lorsque on s'oriente vers l'avenir, lorsqu'on s'oriente vers demain, que ce soit en tant que serviteur de Dieu, parce que je crois qu'il y a des pasteurs qui nous écoutent ces jours-ci, donc que ce soit dans mon service pastoral, que ce soit dans mon service de croyant et dans mon service de membre du corps de Christ et membre d'une église locale, dans mon service et dans mon vécu de tous les jours, je dois aussi soumettre mon prochain pas à la volonté de Dieu. Et je fais exprès de dire de soumettre mon prochain pas. Très souvent, on pense à la volonté de Dieu quant aux choses qui sont loin, qui sont tellement éloignées, qui sont dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, si Dieu nous prête vie. Mais se soumettre à la volonté de Dieu, c'est dire le prochain pas que je vais faire, je vais le faire dans la volonté de Dieu. Mon prochain pas, je le soumets à la directive de Dieu. Mon prochain pas, ma prochaine décision, ma prochaine action, mon prochain geste, je le soumets à la volonté de Dieu. Mon futur, c'est ce qui arrive dans une seconde. C'est ce qui arrive juste devant moi. Et ce futur, je le mets dans la volonté de Dieu. Je sais que je marche vers Dieu. Je sais que je me dirige vers lui. Je sais que je m'en vais vers une éternité que je veux passer en sa présence. Mais cette éternité se prépare ici-bas et elle se prépare par une soumission à la volonté de Dieu. Et cette idée est renforcée par le fait qu'on nous dit que Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. J'ai dit tout à l'heure que c'était le fait que Jésus avait toute puissance sur toutes choses. Et c'est une réalité. La puissance, la plénitude de Dieu résidait en Jésus. De surcroît à cela, remettre toute chose entre ses mains, donc toute chose, pour être très clair, c'est le terme passe qui veut dire toutes et chacune. Ça veut dire l'ensemble de toutes les choses, mais c'est pas juste une généralité. Il y a aussi la spécificité de chacun des détails. Et j'aime cette expression toutes et chacune, tous et chacun. Où on ne peut pas tout simplement se concentrer sur les grandes lignes, mais c'est l'ensemble de l'œuvre et le précis de chacun des détails, de chacune des situations, de chacune des actions que je pose. Remettre toute chose entre ses mains, remettre, c'est le terme didomi, qui veut dire habituellement donner. C'est un des 8 ou des 9 synonymes qu'on trouve en grec. Et un jour, j'aurai l'occasion d'enseigner sur les différents termes grecs pour donner. Et c'est un enseignement qui est que j'ai déjà commencé à préparer, qui est vraiment intéressant. Mais didomi veut dire donner, effectivement. Mais ça veut dire aussi confier, mandater, appointer, habiliter quelqu'un pour une chose ou appeler quelqu'un pour une chose. En fait, c'est de donner une tâche, une charge, une responsabilité à quelqu'un. Lorsqu'on dit que Jésus savait que le Père avait remis toute chose entre ses mains, c'est pas strictement qu'il lui avait donné toute autorité, mais l'autorité c'était pour accomplir quelque chose. C'est comme de dire, ah oui, moi je suis très puissant, mais cette puissance je l'utilise pas. Ou sinon, je suis très fort, mais dès qu'il y a une force à déployer, je reste assis sur mon fauteuil. C'est de dire, ah, je suis très talentueux, mais ce talent, je ne le mets jamais en action. Lorsqu'on nous dit que Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, lorsque Dieu met un talent, une responsabilité, lorsqu'il met des habiletés en toi, c'est aussi pour que tu accomplisses quelque chose. Alors ici, Jésus avait reçu toute autorité sur toute chose. Dieu avait remis toute chose entre ses mains, mais c'était pour que Jésus accomplisse quelque chose. C'était pour que Jésus accomplisse une œuvre. C'était pour que Jésus puisse effectivement accomplir l'œuvre du Sauveur et du Rédempteur à la croix. Tu sais d'où tu viens. Tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé de toute éternité. Tu sais où tu vas vers Dieu en décidant de te soumettre à la volonté de Dieu. Je vais prendre une gorgée. Dans le pratico-pratique de tous les jours, savoir que Dieu t'a appelé et savoir que tu remets ta volonté sous la directive ou la direction de Dieu, qu'est-ce que ça implique pour ton quotidien? Mais ça implique que tu fasses l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Il y a des gens qui se réjouissent de savoir que Dieu les a appelés. Il y a des gens qui se réjouissent des couronnes en contrepartie qu'ils vont avoir au ciel. Donc, ils regardent le passé. Dieu m'a appelé de toute éternité. Et waouh, je vais avoir des couronnes au ciel. Mais ils ne se préoccupent pas de leur présent. C'est en manifestant ta soumission à la volonté de Dieu, par tes actions, par ton travail, par ton dévouement à la cause de Christ, que tu honores l'appel qu'il a fait dans ta vie. Et c'est en faisant le travail que tu dois faire aujourd'hui que tu assures les couronnes de demain. En fait, savoir d'où Dieu m'a appelé, savoir les récompenses qui m'attendent une fois que je serai là-haut et comprendre que je me soumets à sa volonté, ça implique pour toi et pour moi que je dois m'interroger à savoir qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour Jésus. Tu as quelques heures devant toi, tu as 24 heures devant toi, qu'est-ce que tu vas faire de ce 24 heures? Est-ce que tu vas honorer l'appel que Dieu a adressé à ta vie de toute éternité? Est-ce que tu vas soumettre ta vie et ton avenir entre les mains de Dieu, sous la direction de Dieu, en commençant aujourd'hui par un travail envers lui, un travail dans l'avancement de son royaume, un travail auquel il a pensé pour toi, pour lequel il t'a préparé et pour lequel il t'a équipé et pour lequel il t'a positionné. Voilà pourquoi la question pour aujourd'hui, c'est que ferais-je donc pour Jésus aujourd'hui? Tu n'es pas le fruit du hasard. Cette journée n'est pas le fruit du hasard. C'est une journée pour servir ton Dieu, en soumettant ta volonté à la direction de Dieu et en accomplissant ce qu'il t'a appelé à accomplir pour aujourd'hui. Voilà ce que nous avions pour aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce qu'effectivement, tel qu'on l'a enseigné hier soir, tel qu'on l'a enseigné dimanche, la parole qui a été faite chair, c'est Jésus. Et Jésus nous a montré d'une façon pratico-pratique, d'une façon visuelle, d'une façon imagée, claire et précise, comment vivre en soumission à la volonté céleste, comment marcher une vie intègre selon le regard de Dieu et comment accomplir la volonté de Dieu de notre vivant. Alors je prie, Seigneur, qu'effectivement nous comprenions que l'appel qui a été lancé sur nos vies, que les talents qui ont été placés dans notre vie, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas le fruit d'une décision de dernière minute, mais c'est un mandat, c'est un appel de toute éternité. Tu m'as appelé de toute éternité à être ce que tu désires que je sois, à être le Florent que tu désires que je sois. Et je prie, Seigneur, d'honorer cet appel tout d'abord en soumettant ma volonté à ta volonté, en marchant et en me plaçant sous ton égide, sous ta direction, sous ton choix, sous ta volonté. Et placer ma volonté sous ta volonté et sous ta direction, c'est donc accomplir ta volonté de mon quotidien, dans mon jour présent, dans ma vie d'aujourd'hui. Alors Seigneur, je prie qu'aujourd'hui je fasse ce que tu désirais que je fasse pour aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que lorsque je me coucherai ce soir, je puisse avoir effectivement un constat d'avoir accompli ce pourquoi tu m'as appelé, ce pourquoi tu m'as préparé, ce à quoi tu pensais pour moi depuis toujours. Je prie, Seigneur, qu'il en soit de même pour ma sœur et pour mon frère, qu'aucun d'entre nous qui entendons ces paroles ce matin ne puisse se coucher ce soir sans avoir accompli ton plan à travers nous, ton plan à travers notre vie. Alors je bénis ma sœur dans l'activité qui sera sienne aujourd'hui. Je bénis mon frère dans l'œuvre qui sera sienne aujourd'hui. Je prie, Seigneur, qu'ils accomplissent parfaitement et complètement ta volonté pour que tu tires gloire, honneur, et joie et plaisir dans le travail de ma sœur, dans le travail de mon frère. On continue à prier pour nos pasteurs, pour les serviteurs que tu as placés autour de nous. Fortifie-les, encourage-les, rappelle-leur, Seigneur, que cet appel qu'ils ont reçu ne date pas d'il y a 5 ans, ne date pas d'il y a 10 ans, ne date pas même de leur tendre enfance, ça date de toute éternité. Et que, Seigneur, ces plans pour eux sont réalisables aujourd'hui encore. Soutiens-les, fortifie-les et permets-leur, Seigneur, d'être encouragés par ta présence. Permets-nous aussi, Seigneur, comme membres du corps de Christ, d'être des sujets d'encouragement pour ses serviteurs, pour ses frères, Seigneur, que tu as placés, que nous puissions, Seigneur, peut-être prendre un téléphone pour leur laisser un petit message d'encouragement, qu'on puisse peut-être prendre une plume pour leur envoyer une note leur disant merci pour leur dévouement, pour leur service, qu'on puisse, Seigneur, être des instruments de bénédiction auprès de ses serviteurs, auprès de ses ouvriers que tu as dans ta moisson. En toute chose, bénis-les, fortifie-les, Utilise-nous aussi pour les bénir et pour les fortifier. Nous t'avons prié dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors voici comment on termine pour ce matin. Simplement vous rappeler que les inscriptions ont cours pour l'assemblée de dimanche matin en présentiel. Avec la journée de congé de lundi, plusieurs sont mélangés, ont oublié d'appeler, donc on a un peu moins d'inscriptions que les semaines précédentes, mais l'heure de tomber reste demain midi. Donc on vous invite soit à écrire par courriel, on spécifie bien par courriel pour vous inscrire, ou sinon en appelant au bureau de l'église pour réserver une place pour vous et pour toute personne qui vous accompagnerait, qui doit être, bien entendu, âgé de plus de 6 ans. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse, passez une belle journée dans la présence de Dieu et surtout, encouragez des serviteurs que Dieu a placés auprès de vous. Envoyez-leur un petit mot, envoyez-leur, appelez-les, faites quelque chose pour faire sentir que vous êtes avec eux et surtout, priez pour eux, appelez la protection et la bénédiction du Seigneur sur ses serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. On se retrouve demain matin. Au revoir tout le monde.